Chers amis des cellules, bonjour. Bonjour en particulier à tous ceux qui viennent découvrir les cellules paroissiales d'évangélisation pendant ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'évangile qui nous sera proposé dimanche prochain, l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12. Nous sommes à l'écoute de la proclamation dans le désert faite par Jean-Baptiste. Mais écoutons le texte. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son air à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Fin de la lecture. Quelques éléments rapides de contexte. Nous sommes dans le désert de Judée, cette partie qui se trouve dans les environs de Jérusalem. Le désert de Judée est un désert qui n'est pas permanent, c'est-à-dire que pendant l'hiver et pendant le printemps, il y a de la pluie et donc ce désert est verdoyant. Vers la fin du printemps et pendant tout l'été et le début de l'automne, en revanche, la sécheresse est permanente. Et donc on retrouve un véritable aspect de désert. C'est là que Jean-Baptiste proclame ce que le Seigneur lui a demandé d'enseigner. Il s'est placé au bord du fleuve Jourdain, ce qui est un petit fleuve hein, pour nous. Ça ressemblerait plutôt à une rivière, mais comme il y a de l'eau en permanence dans ce fleuve, eh bien il est considéré justement comme un fleuve et pas simplement un wadi qui serait un ruisseau intermittent. En plus de sa prédication, il accomplit un signe, il plonge les gens dans l'eau, c'est ce que veut dire littéralement baptiser, plonger dans l'eau, les gens qui ont confessé leurs péchés en vue de la conversion. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont péché et ils espèrent recevoir le pardon de Dieu. Jean-Baptiste ne dit pas qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est un plus fort que lui qui aura ce pouvoir-là. Saint Matthieu présente aussi Jean-Baptiste comme celui qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il porte des vêtements qui font penser au prophète Élie, celui dont le retour avait été annoncé pour préparer la venue du Messie. La personne de Jean-Baptiste crée un certain émoi, les gens viennent de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, parce que la voix prophétique s'était tue depuis le retour d'exil, à partir du moment où le temple avait été reconstruit, c'est-à-dire il y a plus de 500 ans, on n'avait plus bénéficié de prophètes du Seigneur en Israël. Le retour de la voix prophétique était attendu pour les temps de la venue du Messie. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter plus particulièrement sur la phrase de Jean-Baptiste « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de la conversion. » Voilà une interpellation qui certainement secoue. Il n'est pas agréable d'être traité d'engeance de vipères, mais tâchons de comprendre ce sur quoi cela porte. Cela porte sur trois éléments. Le premier élément, fuir la colère qui vient. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est. Le deuxième élément, la nécessité de produire un fruit qui soit digne. Le troisième élément, ne pas croire qu'il suffit d'être de la décence charnelle d'Abraham. Premier élément, donc, fuir la colère qui vient. L'expression « la colère de Dieu » ou « la fureur de Dieu » désigne le moment où le Seigneur fait justice aux opprimés. Ce que l'on appelait la coupe de la colère était la coupe qui recueillait tous les cris des opprimés, tous les cris de ceux qui recevaient un traitement injuste et qui ne voyaient pas justement appliquer la justice. Fuir la colère qui vient, cela signifie donc vouloir échapper à ce rétablissement de la justice, ou autrement dit, vouloir échapper à sa responsabilité. Or, le salut de Dieu implique une reconnaissance de la vérité. Le salut que Dieu donne, ce n'était pas grave, ou bien il ne s'est rien passé. Le salut de Dieu est offert à ceux qui voient, comprennent et reconnaissent la gravité de la faute. Jean-Baptiste invite donc à ne pas être dans une démarche par rapport au signe qu'il propose, le signe du baptême, où l'on se dirait, au cas où j'ai fait quelque chose de mal, je me fais baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste, et tout ira bien, mais je ne me concerne pas beaucoup, ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir ce que j'aurais pu faire, ce qui aurait pu être de ma responsabilité. Voilà, j'ai fait le rite, je suis propre, quoi que j'ai fait. C'est d'ailleurs pour cela que dans le sacrement de la réconciliation, dans la confession, on demande de la part de Dieu une vraie contrition, c'est-à-dire une vraie conscience du mal dont nous sommes responsables et un vrai regret de ce mal dont nous étions responsables. On ne se ferme pas les yeux devant les exigences de la justice. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques dimanches, on avait entendu la parole de celui qu'on appelle le bon larron, qui disait « Après ce que nous avons fait, notre sort est juste ». Voilà un homme qui ouvrait les yeux avec vérité, avec lucidité, sur ce qu'avait été sa vie, et il ne cherchait pas à minimiser ou à oublier ce qu'il avait fait. C'est dans un acte de vérité qu'il s'ouvrait du coup à la miséricorde de Dieu. Donc, premier élément que Jean-Baptiste veut écarter, la fuite de la responsabilité, l'aveuglement sur la responsabilité. Deuxième élément, produisez donc un fruit digne de la conversion. On est donc face à l'idée que la conversion doit porter un fruit, que la conversion doit amener à un changement concret. Une petite distinction peut nous amener à mieux le comprendre. On pourrait parler d'un côté de pénitence-conversion et de l'autre côté de pénitence-satisfaction. C'est lorsqu'on a les deux aspects que la pénitence peut devenir complète. La pénitence-conversion, on pourrait dire, c'est le retournement du cœur. Un peu comme voilà, quand au ski vous faites une conversion, c'est que vous étiez tourné d'un côté et vous allez vous retourner à 180 degrés. J'étais tourné vers le mal, je me tourne désormais vers le bien, je me tourne désormais vers la justice. Mais pour le moment, je suis toujours sur place. C'est juste le côté vers lequel j'étais tourné qui a changé. La pénitence-satisfaction va être les premiers pas, voire le premier pas que je fais dans la nouvelle direction que j'ai choisie. La pénitence-satisfaction me permet de ne pas faire du surplace, mais d'avancer sur le chemin de la justice et de la bonté. C'est pour cela que dans le sacrement de la confession, on donne aux pénitents une satisfaction à faire, ce qui peut être un moment de prière, qui peut être un acte de charité. En tout cas, on lui donne quelque chose pour le mettre en route, qu'il ne reste pas sur place, mais qu'il ait une action à faire qui puisse lui permettre de mettre un premier pas dans les pas de Jésus. La conversion implique justement un retournement et une mise en mouvement. Jean-Baptiste met en garde contre ces retournements qui ne produisent aucune mise en mouvement. comprenons que la mise en mouvement n'est pas strictement équivalente à une conversion totale, parfaite, mais c'est un premier pas, c'est une première modification, c'est une chose que j'ai identifiée, retenue et mise en œuvre. Or, il est toujours plus facile pour le Seigneur de nous aider à la conversion lorsque nous nous sommes mis en route. De la même façon que quand on doit bouger une grosse pierre, il est plus facile de modifier son emplacement lorsqu'elle a déjà commencé à rouler que lorsque elle n'a encore aucun mouvement. Ainsi, imaginons quelqu'un qui dise « je souhaite pouvoir prier plus régulièrement ». Ben, peut-être que le premier pas pour cette personne, c'est d'identifier le lieu où elle va prier. Tu veux prier demain matin? À quel endroit tu seras? Sur quelle chaise ou dans quel fauteuil ou dans quelle église? Est-ce que le lieu est préparé? Est-ce que tu as déjà, je ne sais pas, mis ta Bible à cet endroit? Est-ce que si tu utilises une bougie, elle est déjà prête ainsi que le briquet que tu voudrais utiliser? Cette identification du lieu et cette préparation du lieu peut être le premier pas qui permettra d'aller plus loin. En effet, ce premier pas est aussi une façon de dire au Seigneur « Tu as la liberté d'agir en moi, de me purifier. Par ce geste, par cette initiative, j'affirme que je te donne la liberté d'agir en moi pour me purifier, pour me transformer. » Et l'on rejoint là le troisième élément dont parlait Jean-Baptiste. « N'allez pas croire qu'il suffit d'être de la descendance charnelle d'Abraham. » Si vous pensez être les fils d'Abraham, vous devez avoir le même cœur qu'Abraham, vous devez avoir la même foi qu'Abraham, vous devez avoir les mêmes dispositions qu'Abraham, et pas simplement le même sang. D'où pouvait venir cette confiance dans le fait d'être de la descendance, d'être du sang d'Abraham? Il y a dans la tradition juive un éloge des pères, il y a dans la tradition juive une confiance que les pères, les patriarches, ayant été amis de Dieu, bénéficient de sa bénédiction et par la qualité de leur vie, nous portent, nous soutiennent dans la prière, nous font partager d'une certaine manière leurs mérites. Mais Jean-Baptiste rappelle, pour profiter des mérites des pères, il faut que vous ayez un cœur qui soit accordé au leur, qui ait les mêmes dispositions que le leur. Sinon, vous ne bénéficierez pas de cet héritage. Cet héritage vous est en effet offert, mais si votre cœur n'est pas bien disposé, c'est comme quelqu'un qui ne tend pas les mains pour recevoir le cadeau qui lui est fait. Vous ne prenez pas possession de ce qui vous est offert. Ainsi, le geste concret, digne de la conversion, s'accompagne d'une ouverture du cœur, d'une ouverture de notre liberté qui dit au Seigneur « Tu peux agir en moi, viens agir en moi, viens me purifier. » On comprend que le tout n'est pas simplement une histoire de notre volonté, on a besoin justement que le plus fort que Jean-Baptiste, celui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu, vienne agir en nous. Et nous comprenons que ce discernement dont parle Jean-Baptiste, nettoyer l'air à battre le blé pour conserver le grain et brûler la balle et brûler la paille, cela désigne aussi un travail à l'intérieur de nous. L'œuvre du Messie n'est pas simplement de dire il y a d'un côté les bons et de l'autre les mauvais, mais d'extirper en nous ce qui est mauvais, de purifier en nous ce qui est mauvais et de consacrer ce qui est bon. Au terme de notre enseignement, reprenons peut-être les choses. Jean-Baptiste invite à ne pas fuir la colère qui vient, c'est-à-dire à ne pas fuir nos responsabilités, mais à les assumer. Il nous invite à porter un fruit digne de la conversion, c'est-à-dire de faire un pas concret qui correspond à ce que nous avons vu, pour nous mettre en marche sur le chemin de la justice et ne pas faire du surplace. Enfin, nous sommes appelés à avoir un cœur semblable à celui d'Abraham, en donnant l'autorisation au Seigneur de travailler en nous, de purifier notre cœur et notre vie. Ainsi, nous ne serons pas comme les vipères à la langue fourchue, c'est-à-dire une langue double, qui dit une chose mais qui veut en fait en vivre une autre. Ainsi, nous aurons une parole droite et une vie unifiée. Je vous souhaite de bons échanges.